بحامي وصل حضره
La fin des ZFE, les zones à faible émission, les agriculteurs qui peuvent désormais réutiliser certains engrais chimiques. Et cette semaine, on a appris la fin temporaire de la prime Rénov. Bref, est-ce le début de la fin de ce que l'on appelle l'écologie punitive? Qu'en pensez-vous? Est-ce une régression par rapport aux enjeux écologiques ou au contraire? Ben non. Il y a aussi des raisons économiques, il faut aussi en prendre en compte. Eh bien, 0810 055 056, je veux votre avis, s'il vous plaît. Et à 12h30, si vous prenez la route, vous avez remarqué qu'il y a des dodanes, des ralentisseurs partout.
Partout,
eh bien, d'après une association, écoutez bien, 400 000 ralentisseurs sont jugés illégaux en France. Oui. 90% des dodanes, ils n'ont pas à être là. Oui. On en reparlera avec notre invité. Voilà, si vous voulez réagir sur tout ça, eh bien, vous connaissez notre numéro 0810 055 056. Et puis, je veux aussi que vous nous appeliez pour le youpi du samedi. Vous savez que, voilà, si vous avez une bonne nouvelle, un truc positif à nous raconter, eh bien, appelez vite parce qu'on terminera l'émission avec vous. Donc, 0810 055 056. Et quand vous passez à l'antenne aujourd'hui, vous repartez avec quoi, mon cher Nicolas?
Vous trouvez pas que ça sent le parfum des vacances?
Tout à fait, ça sent.
Eh bien, on vous offre vos vacances en famille au domaine des Ormes, en Bretagne,
c'est très beau.
Entre Rennes et le Mont-Saint-Michel, semaine en lodge pour 5 personnes.
Vous imaginez, 5 personnes. C'est bien. Hein.
Et en plus de ça, on rajoute 100€ pour vos frais de voyage.
C'est un très beau cadeau. 0810 055 056. Appelez vite un mot sur le groupe Facebook.
Alors, pour nous retrouver sur Facebook, c'est Youpi la vie avec Willy Rovelli. On a posté une petite photo tout à l'heure en direct.
Très joli. C'est le plus beau des trois.
Et nous avons un coucou, nous avons un coucou de Fanny qui habite Beauvais. Je suis assistante maternelle et je vous écoute chaque week-end. Merci pour vos émissions, mais c'est trop court. On nous le dit souvent.
Oui, mais tout le temps d'ailleurs.
Et Hervé a laissé un message. Sa passion, c'est son jardin. Il a un potager. Quand il a trop de légumes, en fait, il en donne à ses voisins. C'est sympa.
C'est vrai.
Continuez à laisser vos messages, vos youpi sur le groupe Facebook. C'est Youpi la vie avec Willy Rovelli.
Non, comme trop court, c'est mon surnom.
C'est l'histoire de votre vie.
C'est l'histoire de ma vie. On a tout dit. On papote. Ouvrons notre premier dossier. Bonjour Céline Imar.
Bonjour.
Bienvenue ici. Vous êtes députée européenne, ma chère Céline. Alors, je l'ai dit en introduction, entre la fin des ZFE, la fin de la prime Rénov, la reprise de la construction de l'autoroute A69, malgré des décisions de justice qui vont, qui viennent, et des opposants, dis donc, on a l'impression que ce n'est pas la joie pour l'écologie en ce moment. Il se passe quoi? Pouvez-vous nous raconter un petit peu, s'il vous plaît?
C'est la joie pour l'écologie, mais c'est pas la joie pour l'escrologie. C'est-à-dire que ceux qui ont utilisé la planète comme prétexte pour imposer un mépris de classe et ceux qui prétendent sauver la planète contre les gens, vous voyez, c'est eux qui prennent des défaites. Aujourd'hui, c'est pas la planète.
C'est ça.
Et alors, je peux essayer de revenir peut-être sur ces dossiers que vous mentionnez bien. Allez, le premier, c'est la 69. Ouais. Je commence par celui-là parce que c'est vrai qu'il est dans le Tarn, il est près de chez moi. Ouais. Et c'est un projet vital pour le département qui a été voté par tous les élus depuis 30 ans, qui a été soutenu par la population locale. Et alors, ce ne sont pas des décisions de justice qui viennent. Il y en a eu déjà 14.
C'est ça.
14 recours. Par les opposants. Ouais. Et à chaque fois, la justice administrative et même le Conseil d'État, la plus haute juridiction, a confirmé qu'il y avait vraiment, vraiment une utilité publique au projet. Aujourd'hui, il y a des routes très accidentogènes, extrêmement encombrées, qui polluent beaucoup aussi pour le coup. Et en fait, ce projet de territoire, il a été pensé de manière hyper collective. Aujourd'hui, on a un chantier qui est fait à 70%. On a une justice qui a validé la reprise des travaux. Bon, et je peux vous dire que la population locale en a besoin. Le Tarn, vous voyez, c'est pas une marque de savon bio. C'est un endroit où vivent des gens. C'est important. Puis c'est une autoroute pensée pour être aussi décarbonée. Bon, évidemment, les préoccupations environnementales sont au cœur de la mobilité. Et c'est super important. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui en ont besoin.
Tiens, ça c'était pour l'autoroute. Reprenons par exemple la fin des ZFE. Tiens, vous en pensez quoi de ça, vous?
Et la fin des ZFE, pour moi, c'est l'exemple type de la fin de l'écologie punitive.
Voilà.
C'est-à-dire que la logique des ZFE, à la base, elle n'est pas complètement idiote. Il faut penser des zones et des solutions pour réduire la pollution. Voilà. Le problème, c'est que ce dispositif, dans la manière dont il a été pensé et mis en place, c'est l'exemple type de cette escrologie que moi j'appelle, punitive. Socialement, c'est injuste, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui vont être pénalisés, qu'ils ne pourront plus avoir accès, notamment au centre-ville, ben, ce sont ceux qui n'auront pas 40 000 euros ou 30 000 euros à mettre dans une nouvelle voiture, donc socialement injuste. C'est techniquement inefficace, hein, parce que c'est-à-dire qu'il y a tellement de manières, de critères, de vignettes, c'est-à-dire que l'efficacité à la fin en pâtit de ce dispositif. C'est censé purifier l'air, mais c'est surtout ça trouble les fins de mois, mais ça, techniquement, bon, l'efficacité, on l'a pas vu. Et c'est politiquement méprisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser, voilà.
C'est la France d'en haut qui est un peu déconnectée du reste de la population, quoi, quand on prend des décisions comme ça.
Mais exactement, c'est-à-dire quand on a des trottinettes en libre-service à Paris, vous pouvez pas penser des dispositifs, alors que, voyez, dans les territoires ruraux, vous avez 38% des ménages, des familles les plus pauvres qui roulent en critères 4 ou 5, voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en fait un mépris de classe. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas la transition écologique. Non. Ça, c'est pas sauver la planète.
Je précise, Céline, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes agricultrice, hein. D'accord? Donc, je veux dire, au cœur des préoccupations de tout ça. Voilà, qu'on se dise pas, bah, tiens, c'est encore quelqu'un
qui... Vous êtes concernée.
Ouais. Vous êtes concernée, Céline. Oui. Vous savez de quoi vous parlez, hein.
Oui, puis c'est surtout que moi je vide toujours à chaque fois pour mon mandat, je me déplace à Bruxelles ou à Strasbourg au Parlement européen, mais je reste toujours ancrée dans ce territoire et pour moi c'est très important parce que justement je ne veux pas prendre ce risque de déconnexion avec des fonctionnaires ou des politiques qui vivent tout le temps dans la bulle parisienne et qui finalement se déconnectent de ce sentiment de déclassement que nous on ressent dans la ruralité.
Alors Céline, on fait comment du coup? Parce que bon, voilà, il y a un changement climatique, voilà, on nous dit qu'il y en a un. Moi, je n'y connais rien, je ne sais pas. Alors, il y a un changement climatique, très bien. Il y a peut-être des choses que nous, on doit changer dans notre vie quotidienne, dans notre manière de vivre, etc. Comment on fait, alors? Est-ce qu'il faut qu'on nous explique mieux les choses?
Alors, déjà, il faut arrêter de s'autoflageller en permanence, parce que la France, aujourd'hui, c'est 0,2% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Bon. La Chine plus les États-Unis, c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Bon. Donc on arrête de dire qu'on est tout le temps de mauvais élèves.
Déjà, on arrête de dire qu'on est tout le temps des mauvais élèves et on inverse la logique et on essaie de proposer des solutions, pas des punitions. Voilà, ça c'est vraiment la chose la plus importante. C'est-à-dire que si on veut une écologie qui soit populaire, il faut trouver des solutions. On en a, par exemple, l'agriculture, on n'en a pas parlé. Mais au lieu de lui imposer des normes toujours plus drastiques, toujours plus sévères, et d'importer du coup de Turquie, du Brésil, de partout ailleurs, des choses qu'on peut plus produire chez nous parce qu'on n'a plus les outils, et bien au lieu de faire ça, il faut considérer l'agriculture comme une solution. L'agriculture, elle a une solution. Aujourd'hui, elle a les sols, elle a des pratiques ultra vertueuses, l'agriculture française. C'est certainement la plus vertueuse au monde. Utilisons-la comme solution pour la transition énergétique, pour capter des gaz à effet de serre, pour capter du CO2. Vous voyez, les cultures, par exemple, les prairies, tout ce qui est vert, le maïs et les céréales, c'est une pompe à carbone. La photosynthèse fait qu'aujourd'hui, on peut capter ce CO2 et le retransformer en oxygène et on peut produire de la biomasse. Et on peut créer des filières, par exemple, pour des carburants propres pour l'aviation, pour le textile, pour l'isolation des bâtiments. Et si on considère les solutions, c'est là qu'on passe de l'écologie punitive à l'écologie de solution.
Voilà, donc il y a des solutions, qu'on écoute plus la base et qu'on discute tous un petit peu ensemble et qu'on avance tous main dans la main, voilà, qu'on n'ait pas l'impression d'être tout le temps puni.
Exactement.
Merci beaucoup, Céline.
Confiance à la France d'en bas.
Voilà, la France d'en bas. Merci Céline Imar, c'est un plaisir de vous entendre. Vous revenez quand vous voulez.
Merci
beaucoup, députée européenne et agricultrice de profession. Est-ce l'infa de l'écologie punitive? Tiens, vous en pensez quoi de tout ce qu'on vient de dire? 0810 055 056, on vous attend, vous faites partie de cette tribu, alors appelez-nous. Et puis, ça sera après Fabien, on parle de quoi avec toi?
Eh ben, dans un instant, toute l'actu web de la semaine, il va y avoir du sport. J'ai passé une semaine très sportive dans mon canapé.
Très bien.
Mais je vous résume tout dans 3 minutes.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Bon, un peu comme d'habitude, c'est bien mon Fabien. D'abord, Zucchero. J'adore Zucchero. Diavolo in me. C'est là, regarde, il est là. Ah, ah oui, c'est lui, ça. Ah oui, c'est lui.
What you? No, no bisogno di belli.
majorité.
Bonjour à tous.
Choix de texte.
Des jours peut-être.
C'est l'article. En France aujourd'hui.
Je sais pas faire les femmes.
Doga dans le.
Golf 7 en.
Justement, comprendre
ce côté indigeste
de la mort.
Montre la puissance de l'école.
Que demander de plus ?
Choisir entre les deux.
Et là, soleil.
Chant de France.
Première fois sur France Culture le 25.
Il se trouve qu'un auteur.
Eh ben, il y a ce casque avec des
les meilleures nouveautés.
You're only you.
Et répréhensible. Hein.
C'est gratuit. Alors,
Europe
2. Au baiser de ma.
Oh bah c'est pas un philosophe d'après, en tout cas, ça.
Tiens, chef Enze.
Condition, évidemment, que ce soit bien des.
Direction de Stéphanie Fromentin et la caution scientifique de Géraldine Véron, comme les petits poissons. Dans le rôle de l'humain, Denis Chessou. Et dans le rôle de la bestiale,
Brigitte Lecordier, bien sûr. Une mise en onde sonore de Charles de Silla avec Antoine Viossa et Valentin Hazan.
Inter, la nuit. Les mots du jour. Dans l'humeur de la nuit.
Bonjour à tous, les écrans sont-ils nocifs pour les plus jeunes ? Pour une grande partie des spécialistes du sujet, la réponse est oui, mais certains chercheurs relativisent leur impact sur la santé. Bonjour Marie Dupin.
Bonjour.
De la cellule investigation de Radio France, pour Secret d'Info, vous avez enquêté sur les méthodes de l'industrie du numérique pour capter l'argent public et mettre un pied dans les laboratoires de recherche et dans les écoles françaises.
Secret d'Info. Benoît Colomba sur France Inter.
Je pense que quand on a des jeunes qui passent 5 heures par jour sur les écrans, qui consultent des sites, des séries, des jeux vidéo dont on n'a pas idée, et qui ensuite ont une forme de perte de repère entre le réel et le virtuel, avec une banalisation de la violence sur les réseaux sociaux, oui, je pense qu'il faut protéger nos jeunes de la surexposition aux écrans, de la banalisation de la violence.
Voilà, c'était il y a 3 jours sur France Inter, au micro de Sonia De Villers. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, réagit après la mort d'une assistante d'éducation poignardé par un élève de 14 ans devant le collège Françoise Dolteau à Nogent, en Haute-Marne. Et la ministre pointe notamment du doigt l'impact des écrans sur la santé mentale des plus jeunes. Dans le même temps, le chef de l'État, Emmanuel Macron, prône lui l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Et c'est l'occasion de rappeler, Marie Dupin, qu'il y a un peu plus d'un an, le président de la République annonçait justement la création d'une commission d'experts sur le danger des écrans.
Oui, une commission co-présidée par la neurologue Servane Mouton.
Ce qui nous a été expliqué, c'est que la genèse de cette demande, en tout cas, était la peur qui avait été suscitée par les émeutes urbaines quelques mois auparavant, avec le rôle potentiel des réseaux sociaux comme alimentant les violences et les destructions qu'il y avait pu y avoir. Donc le président de la République avait souhaité s'intéresser au sujet et rapidement ne pas en fait rester sur cette question des réseaux sociaux et éventuellement des liens avec la violence, mais de poser plus largement la question des impacts de l'usage des écrans sur les plus jeunes, enfants et adolescents.
Et en avril 2024, les membres de ce groupe d'experts, composé de médecins, de chercheurs et de représentants d'associations, ces spécialistes rendent leurs conclusions. 140 pages et 29 recommandations fortes. Pas d'écran avant 3 ans, pas d'écran dans les crèches et les maternelles, ni de smartphone avant 11 ans.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Eh bien, deux mois plus tard, durant la campagne des législatives, le président de la République, qui avait commandé ce rapport, prend un engagement sur le sujet.
Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Et pour y faire face, fort du travail qui a été fait ces derniers mois, le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans.
Bon, et les préconisations de ce groupe d'experts, finalement, qu'est-ce qu'elles sont devenues ?
Eh bien, aujourd'hui, seules deux mesures ont été annoncées. La généralisation de l'expérimentation portable en pause au collège, ainsi qu'un droit à la déconnexion entre 20h et 7h du matin des outils numériques scolaires, comme Pronotes, à partir de la rentrée.
Donc, des mesures d'interdiction qui se font toujours attendre. Et le 11 février dernier, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, s'est exprimée sur la question.
Oui, un déplacement à l'hôpital Robert Debré à Paris pour rencontrer justement des experts sur le sujet. Écoutez sa réponse à une question posée par un journaliste de l'AFP à la sortie de la réunion.
Le ton des interventions des professionnels autour de la table semblait assez sceptique sur les mesures d'interdiction à proprement parler. Est-ce que du coup on irait plus vers de la prévention que de l'interdiction ?
C'est, moi j'écoute beaucoup et l'interdiction complète est toujours très difficile. Vous n'êtes pas dans la vie des familles tous les jours. Alors que vous disiez, on ne met pas d'écran, dans une crèche, pourquoi pas. Mais vous ne réglez pas le problème parce que l'enfant, le reste du temps, il est avec ses parents. Et je pense que toute la question, c'est là comme ailleurs une discussion à avoir pour échanger avec les parents et expliquer le pourquoi du comment.
Oui, donc on l'entend, une ministre de la Santé très prudente sur le sujet et qui renvoie la responsabilité aux parents. Mais justement, Marie, il y a de plus en plus de parents qui s'inquiètent de l'impact de ces écrans sur leurs enfants.
Oui, comme le père d'un adolescent qui n'arrive plus à se passer de son téléphone avec ses amis, au point qu'il consulte aujourd'hui un psychologue pour ça.
Ils jouent en ligne, voilà, c'est tout ce qu'ils font. Ils jouent en réseau. C'est ça leur moyen de communication. Voir leurs amis, c'est d'être en réseau. Bon, on se rend compte vraiment que le mal que ça peut faire d'avoir un téléphone sur soi en permanence. La première source de conflit avec les enfants, c'est les écrans. Parce qu'à pleurer, parce qu'on a enlevé l'écran. Il n'y a peut-être pas suffisamment de messages clairs pour dire que les téléphones, c'est dangereux, ça rend addict. Et effectivement, pour une classe d'âge, ça peut être compliqué pour leur évolution.
Et Axel vit une situation similaire avec sa fille de 16 ans.
Elle est tout le temps dessus, elle est consciente qu'elle a des problèmes de mémorisation. Et en troisième, les notes ont commencé à baisser. Quand on a mis un gros contrôle parental, elle a arrêté quasiment à 100% de travailler. Mais pendant 3 mois, je l'ai vue couler, ma fille, en fait. Elle coulait, je la voyais, elle était sur son lit, prostrée.
Et c'est pour tous ces parents que des consultations spécialisées voient désormais le jour.
Oui, comme à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, au sein d'un établissement public de santé mentale, où travaille Stéphanie Dupuche, chef du pôle pédopsychiatrie.
On voit bien dans notre consultation que les jeux chez les garçons, c'est compliqué parce que c'est très addictif et que ça va engendrer du coup des troubles du comportement, des troubles relationnels importants. Et puis on voit bien chez les jeunes filles que les réseaux sociaux modifient leur perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ça, ça a des conséquences très importantes dans leur développement émotionnel et affectif.
Et ces troubles liés aux écrans, scientifiquement, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Eh bien, selon les experts de la commission réunie par l'Élysée, il existe un consensus scientifique net sur de nombreux risques liés aux écrans. Manque de sommeil, sédentarité, obésité, problèmes de vue, avec aussi des liens entre les problèmes de sommeil et la santé mentale, les capacités d'attention et de mémorisation.
Mais est-ce que ça crée vraiment une dépendance ?
Alors aujourd'hui, l'addiction aux jeux vidéo est reconnue officiellement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de l'addiction aux réseaux sociaux. Lédia Lazeri est coordinatrice du programme sur la santé mentale au sein de l'Organisation mondiale de la santé qui a mené une vaste étude sur ce sujet. Résultat, plus d'un adolescent sur 10 présente des comportements problématiques. 11% de ces adolescents expliquent qu'ils luttent pour contrôler leurs usages des écrans et que cet usage a des conséquences négatives sur leur vie. Le problème principal, c'est qu'ils disent avoir le sentiment de ne pas réussir à déconnecter. C'est évidemment un signe d'addiction. Et ce qui est très important, c'est la vitesse à laquelle ça évolue. Notre étude a été menée en 2021 et 2022. Lors de notre étude précédente, 4 ans plus tôt, on était à 7% de comportements addictifs. On est passé à 11%. C'est une augmentation évidente et très rapide et très importante. C'est inquiétant.
Et face à cette situation, l'OMS préconise des mesures immédiates et soutenues de la part des pouvoirs publics pour protéger les jeunes des réseaux sociaux.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colomba.
Et je voudrais maintenant, Marie Dupin, qu'on revienne sur cette déclaration de la ministre de la Santé. C'était en février dernier à l'hôpital Robert Debré. La ministre explique qu'il est difficile pour l'instant de prendre des mesures d'interdiction sur les écrans. Déclaration faite après avoir échangé avec un certain nombre d'experts. Et vous vous êtes intéressé à l'un d'entre eux.
Oui, il s'appelle Grégoire Borst et il dirige un laboratoire public de psychologie du développement de l'enfant. Il faisait partie du groupe d'experts consultés par l'Élysée. Si lui-même n'a jamais publié d'article scientifique sur les conséquences sanitaires des écrans, il s'exprime très régulièrement sur ce sujet. Écoutez-le par exemple le 23 juin 2020 sur le plateau de l'émission Enquête de santé sur France 5. Il est question de l'impact des écrans sur le sommeil.
Effectivement, il y a une différence entre ceux qui passent plus de temps sur les écrans par rapport à ceux qui en passent moins. La différence absolue en temps de sommeil chez un adolescent, c'est 8 minutes pour 8h30 de moyenne. Donc, oui, ça a un effet. Est-ce que vous avez besoin d'une politique de santé publique sur cette question-là ? La priorité, c'est de faire commencer l'école plus tard pour les adolescents.
Oui, donc lui considère qu'il faut se concentrer sur les rythmes scolaires plutôt que sur les écrans.
Oui, même si aujourd'hui, ce même chercheur a finalement co-signé le rapport du groupe d'experts qui reconnaît l'existence d'un consensus scientifique sur les effets néfastes des écrans sur le sommeil. Et dans la même émission, sur France 5, il explique par exemple que les jeux vidéo d'action peuvent aider les enfants à apprendre à lire.
Contrairement à ce qu'on peut penser, jouer à des jeux vidéo d'action, ça joue sur le système attentionnel qui est impliqué dans les apprentissages scolaires fondamentaux comme la lecture. Donc on a montré par exemple au laboratoire, quand on fait un essai contrôlé aléatoire, on a deux groupes d'enfants, un groupe d'enfants qui joue à des jeux vidéo d'action, un groupe d'enfants qui joue à...
on the dresser. Ran up on the blood like a Tesla. Coke make a sneeze, God bless her. Fuck her like a wrestler, Brock Lesnar. South cocaine, polyester. Most sand in Mojave Desert. White cheese, talking mozzarella. White girl, talking Aguilera.
Sugar, sweet, sweet.
Spécial Lil Wayne. Retrouve un extrait de son album de Carter Six dans une heure sur Génération.
Je porte des œillères, fuyant le monde, évitant le regard des gens. Né dans le rouge, forcément recherche le feu vert. Tire un temps, kilo de muspère, beaucoup de descendants, période d'engrosse ensanglantée. Beaucoup d'enfants, la moula, je fais, je suis dans le business, un truc du genre. Merci à mes ennemis qui parlent de moi, sans me côtoyer, je fais des économies. Je vis dans leur tête, sans payer de loyer.
Si je devais mettre fin à mes jours, je commencerais par le jour.
Les 50K, elle va vite s'attacher, elle va plus s'éloigner. Est-ce que l'humain s'achète? Est-ce que la guerre ça paye? Je peux pas m'assurer ta fidélité. T'as changé de peine la veille. Si gagner te paraît simple, tu seras voué à l'échec. Ils ont bloqué l'ascenseur, j'ai dû passer par l'échelle. Et je sais même plus ce qui m'anime. Tout écrit comme le béton. Rancunier mais tout passe au final.
Des Pyrénées, c'est une ligne fixe qui n'a pas bougé depuis un certain nombre de siècles. Or, aux États-Unis, ça, c'est « border », c'est ce qui borde un pays par rapport à un autre. Le mot « frontier », il a un tout autre sens. On le retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de noms, de voitures, de marques, etc. « Frontier », c'est les grands espaces, la confrontation de l'homme civilisé à la sauvagerie, et c'est ce qui va le rendre plus courageux et qui met en valeur aussi le caractère particulièrement américain du Nouveau Monde, au contact avec la sauvagerie, la nature, les attaques indiennes, le devoir de se débrouiller par soi-même parce qu'il est seul face à cette sauvagerie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore très fort dans l'imaginaire états-unien. Quand cette conquête de l'Ouest a été terminée, ça a généré une angoisse assez forte parmi les Américains qui se sont dit oh, « Mais si la frontière faisait de nous des Américains ?» Ça, c'était ce que disait Frederick Jackson Turner, l'historien de la fin du 19e siècle. Si cette frontière déclarée fermée en 1892 par le Bureau du recensement est terminée, comment allons-nous rester spécifiquement américains ? Qu'est-ce qui fait de nous encore des êtres exceptionnels ? Alors, ils ont trouvé un certain nombre de solutions. Ouvrir des parcs nationaux pour avoir des réserves de nature ou exercer leur esprit américain. Ou encore aller faire des aventures outre-mer, la conquête des Philippines, la guerre avec l'Espagne. Et enfin, donner une dimension symbolique à cette frontière, c'est la nouvelle frontière de Kennedy, avec l'idée de la conquête de l'espace, par exemple.
Sylvain Prudhomme, on vient de l'entendre, les États-Unis se sont constitués à travers ce mythe de la frontière, alors plutôt vers l'ouest. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'avec ces tensions renouvelées à la frontière mexicaine, alors que Trump entend rendre à l'Amérique sa grandeur, que finalement cette frontière, elle sert aussi à ça. Elle sert aussi à redonner comme un repoussoir aux Américains, à renouveler leur esprit de frontière. Est-ce que vous l'avez senti ?
Alors j'avais pas pensé à ce lien avec l'histoire américaine et avec c'est vrai que c'est assez passionnant. En tout cas, il y a manifestement, il n'est pas difficile de réactiver ce souvenir et cette posture en fait vis-à-vis du dehors. Et c'est vrai que c'est probablement ce que fait Trump. Enfin, en tout cas, à la frontière, il y a tout un imaginaire comme ça paranoïaque, et des milices entières, c'est décrit par beaucoup de documentaires des milices qui s'organisent pour faire face au péril, au prétendu péril
de l'immigration,
de l'immigration, et avec quelque chose qui est aussi d'une chasse aux fantômes. En fait, il y a un film extraordinaire qui s'appelle Borderland de Stéphanie Barbet, où on passe le film entier avec des Américains blancs qui sont armés, qui passent leur temps à poser des caméras, et on voit pas dans le film un seul Mexicain. En fait, on voit pas dans le film un seul de ces supposés clandestins à qui ils font la chasse. En fait, voilà.
Puis ça rappelle aussi le western, et aussi tous ces ferments de la violence qui ont fait l'identité américaine. Mmh. Et c'est vrai que dans votre livre, Sylvain Prudhomme, à mesure qu'on avance dans ce voyage, alors plutôt vers l'Est, donc à rebours des pionniers d'avant, votre récit est de plus en plus peuplé de références cinématographiques, notamment au sujet de Ciudad Juárez.
There she is, the beast, Juárez. Welcome to Juárez.
Sylvain Prudhomme, on vient d'entendre un extrait du film de Denis Villeneuve, Sicario, alors qu'il est truffé, on l'a entendu, hein, il y a de la grosse base, des hélicos, de l'hémoglobine dans le film, sur fond de guerre contre les cartels, que vous citez en référence dans votre récit, Coyote, comme une manière, en fait, c'est ce que vous cherchez à faire, de confronter le réel, la réalité d'aujourd'hui, de cette frontière, aux représentations héritées du cinéma, parce qu'elles sont très nombreuses, surtout au sujet de Ciudad Juárez, donc on est plutôt au milieu en fait des États-Unis, si je puis dire. Et puis c'est une ville qui est connue pour être la capitale mondiale du meurtre et des féminicides. Sauf que vous offrez un tout autre tableau dans votre livre.
Oui, voilà, c'est vrai que je cite ce passage, cette scène très précise là, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant ce que dit Benicio del Toro, "There she is, the beast", la voilà, la bête, en parlant de la ville, il y a un truc comme ça. Et donc, c'est vrai que quand on arrive là-bas, on est forcément habité par toutes ces images, toutes ces représentations qu'on en a, et qui correspondent aussi en partie à une réalité, enfin c'est certain, mais moi j'essayais de raconter les paradoxes en fait, tout ce qui déjouait mon attente. Et c'est vrai que ayant ces scènes-là en tête, je franchissais le pont dans un état de tension et d'anxiété quand même assez extraordinaire. J'étais à pied et voilà, c'est sur ce pont-là que se passent plein de scènes du film très très violentes. Moi aussi, je me disais « There she is the beast » en passant à pied le pont. Et en fait,
sauf que c'était plutôt voilà, de beauty à l'arrivée.
Voilà, j'essaie de raconter
belle.
En fait le fait que je passe finalement une après-midi qui est presque la plus belle de tout le voyage là, parce que c'est un samedi après-midi. Il y a les Ramblas avec plein de chanteurs de rue, plein d'amoureux, de jeunes, de familles qui sont là qui sont juste en train de profiter d'un samedi après-midi ensoleillé comme dans plein de villes du monde. Et voilà, j'essaie d'enregistrer tout ça en fait en prenant acte du fait que ben voilà, Juarez, tout ce qui est décrit quand on parle des cartels, ça correspond à une réalité. Il ne s'agit pas de le nier, mais il ne faut pas se trouver prisonnier de ce prisme-là. Et comme très souvent, en fait, quand on regarde les endroits de loin, à travers la représentation médiatique qui en est offerte, et ben on réduit les endroits à tout ce qui s'y passe de catastrophique, tout ce qui justifie qu'on fasse de l'info, en fait. Or la vie continue et il y a des millions de gens qui vivent à Juarez. Et moi, c'est la ville que j'ai le plus aimée de tout le voyage. Voilà, donc j'essaie de le dire aussi. Et pour ne pas m'en tenir à ça, je fais quand même la revue de presse du jour et je constate en partant que quand même la veille du jour où j'étais là, en tout cas dans les journaux, on raconte qu'il y a eu 4 ou 5 homicides. Donc voilà, j'essaie de montrer tous ces paradoxes.
Et puis vous dites aussi que c'est à Ciudad Juarez que pour la première fois depuis longtemps, vous ne vous sentez pas seul. Qu'est-ce que j'étais seul, vous écrivez, et c'est vrai que la solitude traverse votre livre, il y a la vôtre, sur la route déjà, parce qu'on ne vous prend pas toujours facilement en autostop, c'est pas très courant finalement sur les routes américaines, aujourd'hui en tout cas. Et puis il y a aussi la solitude des frontaliers que vous rencontrez, des Mexicains qui travaillent souvent loin des leurs, qui sont seuls en voiture, qui travaillent aussi sur la route. Et puis il y a cette déglingue des stations-service, des vieux motels. Ça donne une mélancolie quand même, et là on pense évidemment à Paris, Texas. Le film que vous citez aussi à nombreuses reprises, il y a cette humeur quand même.
Oui, complètement, et c'est vrai que là-dessus il y a un contraste entre l'atmosphère côté américain et l'atmosphère côté mexicain. C'est vrai que au bout d'un moment, chaque fois que j'allais côté mexicain, c'était aussi, j'allais reprendre un shoot de vie, tout ça, de movimiento, comme ils disent là-bas. Enfin voilà, il y a parce que côté américain, oui, il y a cette tension, il y a cette solitude, il y a des villes quand même un peu désertées, parce que la vie est beaucoup plus chère que côté mexicain. Il y a partout la police, il y a partout des commerces qui ferment, parce que tout le monde va s'approvisionner côté mexicain, en fait. Et donc c'est vrai que c'est... On se sent infiniment mieux, tout simplement, dans une ville où il y a partout des restos, partout des cuisines de rue, partout des gens qui sont là à boire des coups en terrasse. Ça, oui, mon cœur ne balançait pas entre les deux côtés de la frontière et le. Je savais où j'étais bien, c'est sûr. Ouais.
Allez, on va quitter brièvement la moiteur, la mélancolie des routes américaines du Sud et aussi la vie des villes mexicaines. Place cette fois au Super Mama Jumbo, un orchestre de légende de Guinée-Bissau qui, dès la fin des années 60-70, a accompagné, vécu la lutte de libération menée par Amilcar Cabral contre le Portugal. Un groupe mythique, Sylvain Prudhomme, auquel vous avez rendu hommage dans votre livre, publié en 2014, Les Grands. Tout de suite, c'est Nissa Nambera du Super Mama Jumbo. Je crois qu'il est question de grosses cylindrées, de bolides. Tiens, la route n'est jamais loin.
Moitié paillasse, moitié rhum. beau. Et cette nuit, je t'élève un buste par ma chanson pour tous les beaux rêves de flibuste d'un petit garçon qui attachait ses chevaux devant le saloon, le Mexico, de la belle capucine, la valière, cheveux corbeaux, colt blanc et grand.
Vous écoutez TSF Jazz, la seule radio qui cocoune vos oreilles.
Thank you.
jazz. Le jazz, c'est nous.
Have mercy, baby, baby, on an old boy like me. You know I'm falling, falling, falling at your feet. I'm tingling right from my head right down to my toes.
Plusieurs dieux, mais a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Quilón.